Bonjour, il y a quelques semaines, dans la revue En Magnum, paraissait un dessin prétendument humoristique. Sans la nommer tout en permettant de l'identifier de façon assez évidente, l'auteur et agente de vigneron Fleur Godard, que nous recevions dans l'épisode 42 de ce podcast, y est présenté, offrant ses faveurs à un caviste mâle en l'échange de commandes de vin. Pour avoir dénoncé le caractère du dit dessin, ouvertement sexiste et dégradant à l'endroit des femmes en général et de Fleur Godard en particulier, la caviste Sandrine Goyvertz, fondatrice de l'association Women Do Wine, a été victime d'une campagne de harcèlement dépassant largement le cadre de la critique acceptable et des réseaux sociaux. Nous recevions Sandrine Goyvertz dans l'épisode 51 de La Terre à Boire. Au milieu des pathétiques cris d'orfraie de quantité de professionnels du vin prenant la défense du caricaturiste Graveleux et du journal concerné, se réclamant de la liberté d'expression et opposant l'argument fameux que « gna gna gna, on ne peut plus rien dire », saluons l'excellent article de l'éditeur Antonin Yomi Aminategui, notre invité de l'épisode 58 sur le blog No Wine is Innocent, intitulé « Le problème avec les vieux mâles blancs du vin ». Tout y est dit, et bien dit. À l'instar d'un hashtag MeToo, le compte Paye ton pinard recense les témoignages de femmes du vin ayant été victimes d'agressions sexistes. Il semble qu'elles soient nombreuses. Fleur Godard et Sandrine Goyvertz intentent une action en justice, entre autres pour harcèlement et diffamation, et organisent une collecte de fonds sur la plateforme Litchi pour les aider à financer ces démarches coûteuses, mais nécessaires. Il va sans dire que La Terre à Boire est solidaire de cette action, non parce qu'elle touche et rassemble des personnalités amies dont nous apprécions le travail au point de les avoir invitées à ce micro, mais bien parce que leur combat pour l'égalité des droits et la fin des préjugés sexistes dans le monde du vin, comme dans le monde tout court, nous semble un combat juste auquel nous apportons naturellement tout notre soutien. Ce 72e épisode s'intitule « Françoise Ollier et les vinifies ». Bienvenue dans La Terre à Boire. I'm happy to do whatever I do. Bonjour Laurent, bonjour Florence.
Bonjour. Bonjour.
Comment ça va ?
Bonne question. Je ne sais pas.
Poser cette question à des...
Tout va bien, tout va bien.
À une sommelière et à un caviste dans cette période un peu compliquée. Vous tenez bon ? Toi, je sais Florence que tu travailles quand même à la cave. Le restaurant est fermé, mais la cave est ouverte.
On a la cave, on a les menus à emporter le samedi, et puis on a fait une expérience de menu chez le client, où on a été chez le client à faire le service du vin, le service du menu, tout ça, tout ça. Peut-être à renouveler une prochaine fois, c'était pas mal.
D'accord, bon, on cherche des solutions pour essayer de passer ce cap quand même très compliqué de 2020 qui se prolonge jusqu'en 2021. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, on est quand même encore en janvier, donc je le fais. Et espérons que pour la Truffière et pour le Wine Therapy, ce soit des années un petit peu plus souriantes que la précédente. Aujourd'hui au programme, je vous propose qu'on parle de trois choses. On va parler d'une appellation, on va parler d'un domaine, on va parler d'un collectif de vignerons, comme je l'ai dit dans mon intro. L'appellation, c'est Faugères. Le domaine, c'est Ollier-Taillefer. Et le collectif s'appelle Vinifie. Bonjour, Françoise Ollier.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc aux commandes d'un domaine, le domaine Ollier-Taillefer, en Faugères. Et vous participez à ce collectif donc, de vignerons qu'on appelle Vinifie. Avant de vous assaillir de questions, je propose qu'on situe un petit peu l'endroit où on parle. Et je me tourne vers vous, Laurent, Florence, Faugères. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu de quel vin on parle ? L'endroit, alors l'endroit déjà c'est un peu au-dessus de 7, hein, c'est ça ? Près de l'étang
de
Thau.
25 km de Béziers à peu près, c'est ça ?
Alors Françoise a déjà envie d'intervenir, c'est pas du tout ça ?
On est à 40 km au nord de l'étang de Thau. On est vraiment sur les premiers contreforts de la montagne Noire et du Carroux de l'Espinouse. Donc on est vraiment sur des terrains très pentus hein, par rapport à l'étang de Thau qui est plutôt en zone de plaine.
D'accord. Florence, Laurent, Faugères, ça vous évoque quel type de vin, quel profil de vin, quel terroir ?
vin rouge, pour des vins du Languedoc avec quand même pas mal de fraîcheur. Et après, tout dépend du profil par le vigneron, parce qu'on peut avoir des choses très puissantes et de choses un peu plus légères, un peu plus sur le fruit. Donc après, ça dépend. C'est palette très variée.
Alors, moi, la raison pour laquelle j'ai choisi Faugère, c'est qu'effectivement, c'était une appellation que je trouvais pas trop demandée actuellement quand on me parle de vin du Languedoc. Ça, c'est une première chose. On entend beaucoup parler du Pic Saint-Loup, on entend beaucoup parler des terrasses du Larzac. Je trouvais que Faugère, qui est une appellation qui a une antériorité bien plus grande, avait une espèce de peut-être de désaffection ou de méconnaissance. Ensuite, ce qui m'intéressait sur Faugère, c'est peut-être le côté justement d'un terroir très particulier avec les sols de schiste. Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle j'étais tenté de parler de Faugère aujourd'hui. Et puis, c'est encore une fois, hein, je vais faire ma petite casquette notoristique. J'y étais cet été. C'est vraiment une région aussi assez magnifique. Et donc c'est un coin super à visiter. Donc voilà, Faugère pour moi, c'est des vins qui demandent à être connus, qui manquent un peu de notoriété, je trouve, avec un caractère particulier du fait du terroir et dans une région superbe.
Françoise, est-ce que vous reconnaissez votre appellation ?
Alors je la reconnais, oui, bien sûr. Bon, le manque de notoriété, je suis un petit peu moins d'accord, puisque Faugère fait partie des appellations qui sont quand même connues en région parisienne depuis une trentaine d'années, et Faugère est une appellation qui est la plus présente en caviste.
Je dirais, peut-être pour préciser, je pense, dans la pensée de Laurent, c'est que on a beaucoup parlé ces dernières années, par exemple, de Pic Saint-Loup et des terrasses dont il a parlé, qui sont effectivement plus récentes. Et il y a une forme de prime à la nouveauté. On met en avant l'appellation qui monte, en oubliant peut-être parfois, et à tort évidemment, c'est pour ça qu'on a envie d'en parler aujourd'hui, des appellations qui sont là depuis bien longtemps et ça les empêche pas de bien travailler, quoi.
Exactement. Et ce qui est Faugère, c'est la plus petite appellation en superficie du Languedoc. Faugère, il faut savoir que c'est 7 petits villages, c'est un petit peu moins de 2000 hectares de vignes, c'est 60 vignerons indépendants et une cave coopérative. Donc on est quand même sur une appellation qui est relativement réduite. Donc effectivement, on est moins présent que certaines appellations beaucoup plus volumétriques en grande distribution, mais beaucoup plus en restauration et en circuit traditionnel, notamment chez les cavistes. Faugère, c'est aujourd'hui 60% des surfaces en bio. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein, 60% des surfaces en bio, c'est la seule appellation du Languedoc qui peut se prévaloir d'un tel chiffre sur une appellation qui produit 60 000 hectolitres par an sur les trois couleurs. Donc effectivement, Pic Saint-Loup est aux portes de Montpellier, donc a eu une notoriété tout de suite, il y a une vingtaine d'années, très importante. Terrasse du Larzac, ce sont les petits nouveaux.
C'est ça.
Voilà, c'est pareil, c'est un très joli terroir d'altitude. Donc voilà, et c'est une appellation qui je pense, ira loin également. Bon, Faugère, c'est une appellation également d'altitude. On est sur les contreforts, comme je le disais tout à l'heure, de la Montagne Noire et du Caroux. Un très beau terroir de schiste. C'est la seule appellation du Languedoc à être délimitée autour d'un seul terroir. Donc beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité, et puis en 20 ans, on est passé de 35 vignerons indépendants à 64, donc beaucoup d'émulation, beaucoup de jeunes qui s'installent depuis une vingtaine d'années, et ça c'est quand même assez génial.
Vous disiez terroir de schiste, ça veut dire que tout Faugère est sur un terroir, un sol qui est comparable, d'accord.
Voilà, c'est vraiment, quand ce n'est plus du schiste, ça ne s'appelle plus Faugère. C'est la seule appellation du Languedoc, il faut vraiment le comprendre, délimitée autour d'un seul terroir, de ce terroir de schiste. Donc des schistes très profonds qui permettent aux racines de descendre très profondément dans le sol, des sols qui vont donner de tout petits rendements. Hein, on est entre 25 et 35 hectolitres hectares. 35, c'est vraiment les grandes années. Le rendement moyen de l'appellation cette année, cave coopérative et cave particulière confondues, c'est 32 hectolitres hectares. Et c'est une bonne année. Mmh. Donc voilà, ça vous montre un petit peu ce qui se fait chez nous.
Donc des vignes qui sont plutôt majoritairement anciennes.
Ah non, on y a de tout.
Ouais. Hein,
on est sur Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre, puisque Fourgère, c'est la seule appellation du Languedoc à avoir le Mourvèdre obligatoire à hauteur de 5%, mais le Mourvèdre est obligatoire et il peut amener de grandes complexités et de grandes cuvées, avec des profils de vin d'une commune à l'autre. On a des communes qui sont autour de 100 mètres d'altitude pour monter jusqu'à d'autres communes qui, dont la mienne, qui sont autour de qui sont entre 250 et 350 mètres. Donc, on va avoir entre le terroir de schiste avec ses racines profondes et l'altitude, des nuits un petit peu plus fraîches à partir du 15 août, on va avoir beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité. Voilà. Fougères, pour moi, c'est ça. Et c'est ce que, qu'avec mon frère et mon neveu, puisqu'on est trois associés, hein, je ne suis pas seul sur le domaine Olivier Taillefer, c'est vraiment ce qu'on recherche, ce côté frais, ce côté minéral, ce côté élégant qu'on peut trouver dans certaines languedocs d'altitude.
Alors, passons maintenant au domaine. Il y a deux choses dont on a envie de parler. En fait, on a servi le vin dans les verres. Donc, dites-nous un peu quelque chose du domaine. Mais peut-être, Laurent, d'abord, tu nous dis quelle est la cuvée que tu nous as servie.
Alors, finalement, donc, j'ai choisi Grande Réserve 2015, qui me semblait être la plus accessible par rapport à ce que j'avais au bar. Et donc,
pourquoi voilà, accessible?
Parce que en fait, j'avais également Castel Fossibus, qui est du même millésime, qui a lui été élevé en sous-bois, donc qui demande probablement peut-être un petit peu plus
de temps
et aussi quelque chose de plus consistant pour l'accompagner. Là, la dégustation, elle se fait seule. Je pense que c'est pas mal qu'on ait un vin qui soit tout de suite accessible. Je sais pas ce que vous en pensez, Françoise.
Ah oui, complètement. Complètement. Et la Grande Réserve, en fait, c'est notre cœur de gamme. Et c'est notre cuvée emblématique. C'est très marqué Fougère. On est sur les plus vieilles vignes, sur tous les cépages. C'est-à-dire qu'on va être sur mes Carignans, qui ont entre 60 et 110 ans, plantés par les arrière-grands-parents, et mes Syrah, Grenache et Mourvèdre de plus de 40 ans. Donc, racines profondes, petit rendement, beaucoup de concentration, mais un élevage cuve. Donc, ce qui veut dire qu'on va, je ne sais pas si vous l'avez déjà dans le verre, mais on va avoir quelque chose d'assez marqué, garrigue, olive noire, tapenade.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Et je trouve que ça, c'est un vin qui a déjà de la complexité et de la profondeur, mais on peut tout à fait s'éclater à l'apéro avec un vin comme ça. C'est très tendre au niveau des tanins. Hein, les tanins de schiste sont toujours très soyeux, très tendres. Et donc, voilà, c'est pas agressif, vous allez avoir beaucoup de douceur, beaucoup de fraîcheur, mais ce n'est pas pour ça que le vin ne va pas pouvoir vieillir, bien au contraire. Hein, on a cette fraîcheur et cette minéralité qui va pouvoir accompagner le vin encore quelques années. 2015, c'est un très bon millésime, donc on pourrait imaginer le garder encore 4-5 ans sans problème.
Florence, c'est l'équilibre entre la puissance et la fraîcheur que tu évoquais tout à l'heure.
Oui, on sent le Carignan avec les notes un peu sauvages du Carignan, mais c'est assez droit en bouche, assez tendu. Bon, après, minéralité, vous avez fait une émission dessus, c'est très à la mode, mais c'est vrai que on sent vraiment le terroir et on sent vraiment, entre guillemets, le caillou de schiste, c'est assez présent. Et comme on disait, il y a d'autres terroirs qui ont des schistes, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on va retrouver, un marqueur dans tous les fougères, qu'on soit sur des fougères frais, délicats, légers, ou des fougères plus puissants.
Quelle est la répartition entre les cépages justement sur cette cuvée? Peut-être vous l'avez dit, mais je l'ai pas relevé
non,
entre
non, non voilà.
Carignan est majoritaire?
Non. On est sur 30% Carignan, 30% Syrah, 30% Grenache et 10% Mourvèdre. Tout est en vendange manuel. Et on érafle à l'arrivée en cave, justement, pour garder ce côté très soyeux des tanins.
Éraflage complet, là.
Ouais, complètement.
Pardon. Effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, il est en train de s'ouvrir. J'apporte toujours des vins un peu frais. Hein. La température extérieure fait qu'il a été servi un peu frais. Mais sur les vins du Languedoc, je trouve que c'est bien d'être, de pas être à une température trop élevée. On doit être à 18 degrés, quelque chose comme ça. Là, je pense sur la cuvée. Je sais pas ce que tu en penses, Florence.
Bah, je trouve que justement c'est bien là. Il est un peu ce qu'on dirait température de cave. Donc.
Ouais, Et là, ouais. il est en train de là le fait qu'il se chauffe un petit peu là, il est en train de se dégager et plus d'arôme au nez.
Je pense que c'était une bonne idée de le passer en carafe, justement, ça lui permet de gagner du temps et d'être un peu plus prêt à boire, parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi 2015 qui fait ça, mais ça peut être intéressant de l'ouvrir un petit peu avant et oui. D'avoir le temps de manger l'entrée tranquillement et d'aller sur ce vin tranquillement au moment du plat.
Je pense qu'on a toujours effectivement un bénéfice hein, à essayer de carafer les vins si on le peut. Alors, la plupart des vins qu'on boit sont quand même assez jeunes en général. Là, on est sur 20 à 5 ans, c'est encore un bébé finalement. Et il a déjà on l'apprécie déjà pleinement. Et effectivement, le carafage, je trouve que ça permet vraiment de tout de suite l'appréhender dans les meilleures conditions.
Il me semble qu'on a un peu en tête que le carafage s'impose surtout sur les vins vieux. Toi, tu suggères que c'est plutôt sur les vins jeunes qu'on doit carafer.
Ah, oui, moi...
Non, mais c'est important de faire cette précision.
Il y a deux choses
moi, je dirais qu'il
ne
faut pas confondre carafage et décantage.
Ouais. Ah, ben, c'est l'occasion d'une petite explication. Allez.
Alors, décantage, oui, effectivement, c'est pour les vins vieux, ce qui va permettre de passer le vin d'un autre contenant de la bouteille pour, entre guillemets, filtrer tous les dépôts que vous allez avoir au fond de la bouteille. Alors que carafage, déjà, donc ça va passer dans une carafe qui va avoir normalement une forme différente que la carafe de décantage, donc beaucoup plus large, pour pouvoir donner au vin la place d'avoir plus de contact avec l'oxygène et donc de s'ouvrir, d'avoir une oxydation un petit peu plus rapide pour pouvoir permettre une ouverture et un développement des arômes.
Carafage bien indiqué sur des vins un peu jeunes dont on a envie qu'ils se déploient.
Sur les rouges, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, assez souvent, mais ça marche aussi très bien sur les blancs et même sur les champagnes.
Oui, ça c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas du tout. Hein. Ça, le champagne, carafé champagne, c'est vraiment quelque chose qui faut
initier. On va peut-être perdre un petit peu de bulle, mais on va développer des arômes. Je prends l'exemple de la cuvée salon. Si vous prenez un vieux millésime, c'est très bien comme ça dans un grand verre. Si vous prenez un millésime récent, si vous carafez pas votre champagne, vous passez à côté du vin. Mais après, c'est pas que si on parle de champagne, c'est pas que pour salon. Je pense à la maison Donon, qui est un petit vigneron, et Donon, c'est que ce soit la récolte blanche ou la récolte noire, sont des champagnes qui sont magnifiques après avoir pris un passage en carafe, ça les aide. Donc la carafe pour les champagnes, pour les blancs et surtout pour les rouges.
La carafe est l'ami des œnophiles avec ce petit détour par la champagne. Vous confirmez, Françoise, c'est mieux de carafer votre vin?
Alors c'est mieux de carafer les vins jeunes, je suis mais complètement d'accord.
Bon, très bien. Parlez-nous juste du domaine Olietaillefer. Vous avez donc, on a déjà évoqué deux cuvées. Vous travaillez sur les trois couleurs. Vous avez combien d'hectares? Allez, une petite carte d'identité.
On a 38 hectares. Nos parents ont commencé à développer la vente en bouteille il y a plus de 40 ans. Donc en 1976, ils étaient assez précurseurs. Mmh. Et mon frère s'est installé avec eux en 90, moi en 2003. Et aujourd'hui, on a la sixième génération qui vient de s'installer avec nous cette année, en 2020. Il a bien choisi son année. Donc, on a Florent qui vient de nous rejoindre et c'est super. Donc 38 hectares en bio depuis 10 ans. Avant ça, on était Terraviti, donc c'était vraiment la suite logique du boulot que de se convertir en bio en 2009.
38 hectares en bio et vendangé à la main, ça fait de la main d'œuvre au moment des vendanges. Il y a une sacrée logistique là.
Ouais, mais on n'est pas en Bourgogne, donc on a plusieurs cépages qui nourrissent pas du tout au même moment.
Ah.
Donc ça veut dire qu'on va commencer avec Roussanne, Vermentino, Syrah, début septembre, et on va finir avec le Mourvèdre début octobre. Donc on a une équipe de 14 personnes pendant un mois.
D'accord, très bien.
Voilà. Certains ont 32 personnes pendant une semaine.
Oui, c'est ça.
Nous, on a 14 personnes pendant un mois.
Alors, parlez-nous, peut-être pour finir, du millésime qui est en cuve actuellement. Comment se sont passées les vendanges?
Alors, les vendanges, ça c'est l'année. Le millésime s'est super bien passé. On est sur un beau millésime 2020. On a eu une petite frayeur en fin de vendange avec des orages qui ont pas été si violents que ça. Donc on s'est fait peur, mais en fait ça s'est très bien passé. Et millésime plutôt sur la fraîcheur, l'équilibre chez nous, sachant que nous on est vraiment à l'extrême nord-est de l'appellation Fougères. On est sur les hauteurs. On est dans un petit village qui s'appelle Fosse et on a notre vignoble qui va de 250 mètres à 360 mètres. Donc on est assez haut avec des maturités assez tardives. Et ça, en Languedoc, c'est super intéressant.
Ah oui, parce que voilà. vous craignez pas trop les surmaturités.
Voilà, et puis ce qu'on va rechercher avec mon frère, c'est toujours l'équilibre, jamais être en surmaturité, parce que c'est pas notre goût. On aime les vins plutôt sur la finesse, plutôt sur la fraîcheur. Donc on fait toujours très attention aux maturités. Et voilà, être à la bonne maturité sans aller chercher la surmaturité. Et on fait partie des domaines aussi, mais peut-être parce qu'on est un petit peu en altitude, à produire pas mal de blancs. Puisqu'un petit peu plus de 10% de notre production se fait en blanc, alors que l'appellation Fougères, c'est tout petit en blanc, c'est 2% des volumes. Mmh. Et c'est beaucoup plus récent, puisque l'appellation en blanc date de 2004, mmh. Alors que les rouges et les rosés sont passés à aussi en 82.
Ouais, en effet, voilà, c'est vrai que c'est...
Ouais, c'est très joli blanc, sous la fraîcheur.
Ouais, ça donne envie de les découvrir. Combien de cuvées au total?
Beaucoup de fraîcheur, mais parce qu'on aime ça, quoi. Hein. On aime ça et on fait toujours très attention à ces équilibres.
De ce point de vue-là aussi, vous êtes précurseur, puisque on a eu l'occasion maintes fois d'en parler dans cette émission. Le goût aujourd'hui a évolué, et s'éloigne des vins lourds et puissants pour aller chercher toujours plus de fraîcheur et de tension.
Dans les années 90-2000, on n'était pas c'était un petit peu plus compliqué de commercialiser nos vins parce que certains grands dégustateurs les trouvaient un petit peu fluets par rapport à d'autres vins beaucoup plus robustes, beaucoup plus riches, concentrés, boisés, mûrs, voilà. Mais c'est vraiment une question de goût. Nous, on a pas mal voyagé, mon frère et moi. Et ce qu'on a appris avec notre grand-père et notre père, c'est quand même cette délicatesse de tanin et cette fraîcheur, cet équilibre, vraiment.
Et justement, sur les canaux de commercialisation de vos vins, il y a des marchés qui étaient plus réceptifs plutôt à cette fraîcheur, à cette finesse?
On a toujours très bien travaillé en circuit traditionnel, hein, en restauration et avec les cavistes. L'appellation Fougères a peu exporté jusqu'à il y a 15 ans en arrière, parce que on était, en fait, on a commencé à commercialiser en bouteille dans le Languedoc. On fait partie de l'appellation qui a commercialisé en bouteille assez tôt, tout simplement parce qu'on était à tout petit rendement et que pour s'en sortir, pour gagner notre vie, on ne pouvait pas vendre un négoce qui ne nous valorisait pas assez les vins. Donc tout le monde s'est mis à commercialiser en bouteille assez tôt. Et donc, on a été très présents au niveau national, dans les circuits traditionnels, assez tôt. C'est-à-dire, il y a 30 ans en arrière, on pouvait déjà nous trouver en restauration, chez des canistes, dans toute la France. l'export était un petit peu plus frileux par rapport à ces vins qui étaient effectivement un petit peu moins moins riches, un petit peu moins mûrs. On n'était pas du tout sur un goût anglo-saxon. Et par contre, aujourd'hui, ce sont des marchés qui s'ouvrent complètement à nous. On vend très très bien nos vins sur les États-Unis ou sur les marchés anglo-saxons en général.
Merci en tout cas pour cette cuvée Grande Réserve, parce qu'on est en train de se régaler. C'est vrai que c'est un vin, nous on attaque avec ça. Alors on a quand même quelques petits trucs à manger à côté, mais ça fonctionne très très bien, même en vin de début de soirée, de début de repas comme ça. Je vous le disais en intro, on a envie de finir sur ce collectif, les Vinifies, auquel vous appartenez, que vous animez avec, vous êtes un certain nombre hein, de vignerons d'Occitanie. Quelle est l'idée au départ de ce collectif de vigneronnes, de femmes du vin ?
Alors, les Vinifies, c'est une association qui est née en 2009 sous l'impulsion de Pascal Rivière. Hein. Pascal Rivière, c'est une vigneronne qui est c'est le domaine de la Jatte-Castel en Montpérou et en Serra du Larzac aujourd'hui. Donc c'est elle qui a réuni un petit groupe de femmes avec qui elle avait envie de créer quelque chose. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle avait envie. Et petit à petit, on s'est retrouvés. Nous sommes aujourd'hui 21 vigneronnes. Ça part de Nîmes, on va jusqu'à Collioure, Bagnoux, en passant par les Corbières, le Minervois, Saint-Chinian, Fougères, toutes les dénominations des coteaux du Languedoc. Voilà, donc et évidemment des IGP également, beaucoup d'AOC, mais des IGP également, notamment l'IGP, petit IGP Cévennes, qu'on aime beaucoup aussi pour ses équilibres. Et donc 21 femmes aujourd'hui, et notre objectif, ça a toujours été de pas forcément de commercialiser ensemble, même si aujourd'hui on fait pas mal de choses commerciales ensemble, mais c'était de créer un réseau d'entraide, d'échange, parce que certaines de ces 21 femmes se retrouvaient un petit peu seules. Voilà, elles au milieu de ces réunions syndicales avec beaucoup d'hommes, elles se retrouvaient un petit peu seules et elles avaient envie d'échanger avec leurs paroles de femmes et surtout leur vécu et leurs envies et parler du vin peut-être un petit peu différemment. Donc, il n'y a aucun militantisme chez les Vinifies. Mmh. On n'est pas en campagne contre les hommes, on n'est pas en guerre contre les hommes. D'ailleurs, dans la présentation de l'association, il y a marqué, il y a cette phrase de Sacha Guitry qu'on a repris à notre compte. On n'est pas contre les hommes, mais on est tout contre. Mmh. Mais voilà, c'était communiquer différemment, arriver à communiquer différemment. C'était créer un réseau d'entraide pour discuter technique. On travaille beaucoup aujourd'hui, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la transmission. Alors peut-être parce qu'on est toutes ou quasiment toutes des mamans, mais on veut transmettre quelque chose vers les écoles, que ce soit les tout-petits, mais que ce soit aussi les jeunes étudiants, les jeunes sommeliers. On travaille beaucoup en partenariat avec les écoles hôtelières de notre secteur. On fait des petits salons chaque année, sauf en 2020 évidemment, pour les étudiants en sommellerie de notre région. On fait des salons commerciaux, évidemment, ensemble, hein, parce que c'est beaucoup plus sympa de partir démarcher des clients à 3 ou 4 copines que toute seule. Ça, c'est une évidence. Voilà. Plein de choses qui nous ont amené beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et je pense une vraie qualité de vie dans notre métier.
Alors, j'évoquais dans mon intro les actions d'un autre collectif, pour le coup très militant celui-là, Women Do Wine. Est-ce que vous considérez que c'est des démarches qui sont opposées, complémentaires, parce que sans vous opposer aux hommes, c'est pas nécessairement d'ailleurs ce que fait Women Do Wine, de s'opposer aux hommes, mais plutôt de réclamer une place dans la communication, par exemple, autour du vin pour les femmes. C'est des actions qui sont complémentaires, à votre avis ?
Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, bien sûr. On n'a pas le droit de dire et de faire n'importe quoi. Là-dessus, je rejoins complètement. Par contre, bon, voilà, nous, on fait partie des associations comme les Vinifiles, il en existe dans toutes les régions de France. Mmh. On est toutes fédérées dans le cercle des femmes de vin au niveau national. Donc, on se retrouve une fois par an pour notre Assemblée Générale, des femmes de toute la France. Et ça, c'est vrai que ça crée beaucoup d'émulation. C'est un réseau qui est... C'est un réseau qui est absolument génial. Et puis, je sais pas, moi, je trouve que en tant que femmes qui travaillons ensemble et qui échangeons des techniques, je trouve qu'on est, on parle jamais de concurrence. On se sent pas concurrente entre nous. Je pense qu'on se sent moins concurrente que peut-être les hommes entre eux. Mmh. Et du coup, les choses se passent différemment. Voilà. C'est en tout cas, moi, les vinifiés, ce qu'elles ont pu m'apporter, c'est ça. C'est cette joie, cette émulation, ce côté, cette pêche qu'on peut ressentir à travailler cette énergie, à travailler toutes ensemble.
Françoise, vous appartenez donc à cette AOP Faugère, donc qui est très très tourné vers le bio. Je crois qu'il y avait un projet qui a été initié d'abandonner complètement les produits de synthèse sur l'intégralité de l'AOP d'ici 2028. Est-ce que justement Vinifie, c'est un lieu où parler de ça, est-ce que vous avez tout un peu la même philosophie par rapport au bio? Est-ce que vous sentez parler de transmission? Est-ce que justement la notion de transmettre une culture propre, un sol sain aux futures générations, est-ce que ça fait partie des débats que vous avez au sein de Vinifie?
Alors complètement. Alors au départ, quand Vinifie a été créée, toutes les vinifies n'étaient pas bio. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a deux qui ne sont pas encore passées bio, mais elles sont HVE. Toutes les autres sont bio, bio classique ou Déméter ou biodynamie. Et aujourd'hui, les nouvelles entrantes dans l'association doivent être bio obligatoirement.
Voilà. D'accord.
Parce que effectivement, si on parle transition et si on parle vinification, culture à des enfants ou à des jeunes adultes ou à des jeunes sommeliers, il est évident qu'on parle de ça.
Merci beaucoup Françoise Ollier. Vous avez cité cette sorte de fédération des différentes associations Vinifie, donc le cercle des femmes de vin. On en trouve effectivement dans toute la France. Les Dames de Cœur de Loire, les Divines d'Alsace, Étoiles en Beaujolais, les Aliénor du vin de Bordeaux, Femmes et vins de Bourgogne, les Fabuleuses
de
Champagne, Éléonore de Provence, Femmes Vigne Rhône et enfin Sceaux Femmes et Vins. Et justement, on va ouvrir, on va vous saluer et puis on va ouvrir le vin d'une vigneronne des Femmes et Vins de Bourgogne. Chloé Bayon, vous la connaissez ?
Non, je la connais pas, mais je vous rencontrerai avec plaisir.
C'est du domaine, Florence, rappelle-moi.
Manoir du Capucin.
Manoir du Capucin, on passe en Bourgogne. Merci beaucoup Françoise Ollier, merci pour ce vin et puis pour votre disponibilité et nous avoir fait découvrir un petit peu Faugère.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Voilà, pour ce qui est de Faugère, comme on aime bien avoir deux vins, on a donc décidé d'avoir un deuxième vin et comme la thématique était un peu les vigneronnes, Florence, tu es venue avec ce Manoir des Capucins. Un Bourgogne de Chloé Bayon, qui est donc la vigneronne, dans le domaine Mâcon.
Mâcon, Solutré, Pouilly, mais elle a plusieurs... elle fait Pouilly également et elle fait un tout petit peu de Saint-Véran. Voilà, elle n'est pas que là-dessus. Juste pour la petite histoire, en fait, les vignes appartenaient à sa famille depuis 3 générations au moins, mais ça faisait déjà 2 générations qu'elles étaient en métayage. Donc j'explique juste métayage, c'est le fait de quelqu'un d'autre travaille la terre et pour payer ce travail donne une partie de la récolte. Elle a repris une partie des vignes en 2002. Elle a réussi à récupérer la totalité du domaine en 2005. Voilà, personne dans sa famille s'occupait des vignes parce que à l'époque de ses grands-parents, ils étaient dentistes, donc c'est pour ça qu'elles étaient en métayage. Et quand elle a dit je vais faire l'école du vin et je vais reprendre les vignes, ils l'ont un peu prise pour une folle. Mais non, franchement, ce qu'elle fait, c'est très joli. Et donc elle fait partie de l'association Femmes et Vins de Bourgogne depuis 2000, le début de l'association. Donc, en fait, elle me disait que ce qui lui plaisait dans l'association, c'était d'avoir plus de 30 adhérentes sur lesquelles elle peut aborder des sujets professionnels. Et le fait d'être entre femmes, ça fait que elle se laisse plus facilement la place que quand il y a des hommes au milieu d'eux. Donc le côté un peu mansplaining et que
on retrouve la militante Women the Wine, là, Florence.
Oui. Oh bah si je m'écoutais, je ferais même un débrief de ton édito parce que je crois qu'il y avait beaucoup à dire.
N'hésite pas.
D'accord, on en parlera après le vin. Alors.
Ok.
Entre elles ont plus de place pour échanger, elles sont dans une idée d'entraide et de partage, et aussi de mutualisation des coûts. Ça, elle nous en a pas parlé, Vinifie, mais c'est très intéressant, parce que Chloé me disait que, par exemple, pour le salon Wine Paris, elles y vont à plusieurs, et donc ça leur permet d'avoir un plus grand stand, mieux placé, et de se partager les coûts, et donc de faire des salons sur lesquels, en solo, elles auraient pas eu les moyens de faire. Donc je trouvais ça très intéressant. Et puis en fait elles ont pas encore de service de vente commun, mais c'est une question un peu en suspens qui a l'air de revenir un petit peu sur le tapis. Mais il y a vraiment beaucoup d'entraide parce que moi j'ai un très joli rouge aussi à la cave qui est sur l'appellation Mâcon, et c'est Chloé qui me l'a conseillé. Donc elle s'entraide énormément, et donc c'est de l'entraide, c'est aussi de la solidarité sur des questions techniques, des fois un petit peu plus complexes, des questions juridiques aussi. On n'y pense pas assez, mais les vignerons, ça peut être un peu compliqué, et des questions commerciales. Voilà. Et donc l'idée aussi, c'est de sauvegarder un petit peu le patrimoine culturel des vignes pour ce qui est de l'association Femmes des Vins de Bourgogne. Donc, je redis, on était en train de goûter le manoir du Capucin, donc c'est Chloé Bayon, c'est la cuvée d'Hélice sur l'appellation Mâcon Solu Trépouilly. Et puis voilà, je vous laisse goûter et je vous laisse m'en parler.
C'est un peu étrange de commencer avec un Faugère et d'enchaîner avec un Chardonnay, mais je crois que ça va le faire quand même.
Ben oui, il n'y a aucun souci, il faut savoir être polymorphe, passer du rouge au blanc. C'est vraiment vraiment chouette. Ça fait longtemps que j'avais pas goûté autre chose que son Saint-Véran. Moi, au Wine Therapy, j'ai le Saint-Véran de Chloé.
Juste, il y a quelque chose que j'ai pas dit. On goûte le 2019 parce que j'ai du 19 et j'ai du 18. Et le 19 est peut-être un peu plus concentré et un petit peu plus atypique que le 18 parce qu'elle avait beaucoup gelé. Et donc, les rares grappes qui ont survécu donnent vraiment un produit un peu d'exception. Voilà. Et ce qui n'était pas facile pour elle d'avoir gelé, c'était un peu embêtant.
Magnifique. Le blanc, voilà. Blanc sur le blanc, plus personne ne parle.
Ah oui, le blanc.
Non, mais il a un joli nez de fruits. Il est peut-être plus riche encore que le 18, parce que moi j'avais du 16 et du 18 à la maison, et donc celui-ci je l'ai pris au restaurant. C'est Christian qui a eu la gentillesse de nous l'offrir. Et Et il y a cet équilibre entre, on en reparle encore de la fameuse minéralité, mais il y a vraiment une belle attaque riche sur le fruit, beaucoup de rondeur. Et après, quelque chose de bien tendu, de bien minéral. On n'a pas du tout d'acidité. C'est un joli chardonnay super mûr. Et je trouve que ça goûte bien.
Oui, il y a une belle opulence.
Il est généreux, ce vin. Mm. Tu le recommandes avec quoi?
Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est pas le même suivant les millésimes. Parce que il y a trop de vins aujourd'hui qu'on trouve. Tous les millésimes sont pareils. Alors, bien sûr, il y a peut-être des régions où l'effet millésime est peut-être un peu moins présent. Mais c'est quand même intéressant en Bourgogne d'avoir cet effet millésime, d'en avoir des qui sont plus frais, d'autres qui sont plus ronds, d'autres qui sont plus opulents. Et ça permet de renouveler le plaisir. On s'ennuie pas.
Exactement, il est très très bon. Et c'est vrai qu'il est pas dans les enfin, moi, par rapport aux quelques repères que je peux avoir de Bourgogne, on est sur quelque chose de différent. Je vois pas le côté noisette qu'on avait pu avoir sur les Saint-Romain de Giboulot. Tu te rappelles de cette émission qu'on avait fait? Non, ça c'était un rouge.
Non, Saint-Romain de chez Giboulot, c'était en chevreau, c'était le rouge.
C'était le rouge qu'on avait
2017,
goûté.
De mémoire.
Ce jour-là, tu nous avais fait goûter un blanc, c'était celui
de Lucien Lemoine.
Ouais,
et Lucien Lemoine, après, c'est une vinification totalement différente. Voilà. C'est pas les mêmes parcelles, c'est pas la même chose. Non, après, si on veut des choses plus crémeuses, il y a Clos du Moulin aux Moines, par exemple. Ils ont un Bourgogne juste Bourgogne. C'est
le Clos de la Perrière,
le monopole. On est juste en dessous de la parcelle de Chassagne. Voilà. Mais on n'est pas au même endroit, c'est pas la même personne.
Ouais,
et du coup, c'est ça qui est chouette, quoi.
Exactement.
C'est de goûter des choses différentes. Ouais.
D'autant que c'est plus, enfin moi la dernière fois que j'en ai bu, c'est il y a pas très très longtemps. On est quand même plus sur des raisins moins mûrs. On a une fraîcheur plus importante. L'élevage est différent effectivement, mais là on sent quand même un raisin qui a été bien ensoleillé là sur ce
millésime là.
Sur ce millésime,
18 c'était différent, vraiment, c'était beaucoup plus sur la fraîcheur. 19 c'est plus opulent, mais puis voilà, moi c'est ça que j'aime.
Formidable. Alors, je t'écoute. Tu avais des choses à dire sur ce que j'ai raconté en intro.
Oui,
parce que t'es pas d'accord ou parce que tu veux compléter?
Alors, je vais faire vite pour
compléter. Non, vas-y, prends le temps que tu veux.
Non, mais je trouvais que c'était important d'en parler de ce qui s'était passé. Mmh. Donc, merci. On n'en avait pas parlé avant.
Non,
et,
non, c'est vrai.
L'édito
que je cache en général l'objet de mon édito.
C'était parfait. Et je trouve que il était temps de libérer la parole et de donner la parole à tous, parce que les ressentis peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais il y a vraiment une importance à changer les mentalités, que ce soit par la langue verbale ou que ce soit par la langue écrite. Et l'exemple de l'écriture inclusive, parce que il y a eu le Michelin qui est sorti lundi. Mmh. Et le Michelin a décerné un prix de la sommellerie, donc on est bien sur un terme neutre, on est d'accord, il le met bien dans son CP, et c'est repris par les journaux comme le meilleur sommelier élu est Vanessa Massé. Donc pourquoi on est sur quelque chose de neutre, on passe à quelque chose de masculin tout de suite?
Ça me rappelle Sandrine Goyvert, élue homme du vin par la RVF il y a quelques
années,
qui était le point de départ de Women Do Wine.
Et voilà, et donc l'idée c'était d'oublier cette impunité. Je sais pas pourquoi. On dit bien d'un homme que c'est un serveur et d'une femme que c'est une serveuse. On peut utiliser les deux termes. Donc pourquoi sommelière serait un gros mot? Pourquoi on pourrait pas l'utiliser? Tu as parlé des caricatures dans Magnum. C'était au minimum une faute de goût. Ça aurait pu être suivi d'excuses et puis on s'arrêtait là. C'est vrai que ce côté gna gna gna, on peut plus rien dire, ça peut énerver certains ou certaines d'entre nous. Et quand je dis que ça a énervé, c'est pas spécialement les femmes, parce que je pense que d'autres hommes, d'après ton édito, donc toi-même, t'es senti complètement désolidarisé de ce genre de propos, quoi.
Oui, c'est pas une question de sexe, absolument, en fait. Et comme tu dis, le dessin aurait pu être suivi d'excuses, mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que le fait que le dessin soit critiqué, la réaction qu'on aurait pu attendre éventuellement, oui, c'est peut-être pas terrible, ça a été l'inverse, ça a été beaucoup d'agressivité, en fait.
On assume. volume, ouais. et puis on a raison. Et donc, oui, tu as parlé d'Antonin sur les vieux mâles blancs du monde du vin.
Un très bon papier, d'Antonin.
Qui était très bien. C'est vrai qu'on a tous reconnu, hein, parce que, qu'on soit fan de fleurs ou pas, parce que moi, j'adore moyennement à tout ce qu'elle dit, mais c'est vrai que quand on a poulet rôti, forcément, on reconnaît vin et volaille. C'était trop évident. Et c'est de cette impunité qu'ils ont eue, que les insultes, elles ont plus de partout, quoi, ouais. Auprès de plein de personnes, parce que bon, il y a Sandrine qui, elle, a fait est en train de porter plainte, et c'est un coup, comme tu l'as dit, la campagne Litchi, tout ça, mais ça n'a pas été la seule sur ce plan-là. Et attaquer les qualités et les expériences de Sandrine, et après même son physique, moi je trouvais que on était sur des attaques d'un niveau école primaire, tout simplement. Et moi je préfère voir ces individus un petit peu comme des dodos, une espèce qu'on croyait disparue. Il en reste quelques-uns, donc autant les remettre à leur place, hein, dans un zoo. On va peut-être dire que j'ai pas d'humour, mais quand on voit l'autre dessin, celui de la secrétaire qui organisait 5 à 7, c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'était pas qu'un seul dessin, quoi, ouais. Qui était comme ça. Maintenant, des hommes, il y en a plein, des différents, vous, j'espère, hein. J'entends bien le note all men. Je pense dans ma vie professionnelle à mon directeur, Eric Pelcha, je te dédicace. Tu as plus de 50 ans et tu n'es pas comme ça. Je pense à mon patron, Christian Saint-Sart. Tu as plus de 60 ans et tu n'es pas comme ça. Donc oui, bien sûr, note all men. Donc, j'aimerais bien qu'on se lève tous et qu'il n'y ait plus aucun poste sur Paye ton pinard, parce qu'il n'y aura plus de choses comme ça à dénoncer. Quand je pense à ce genre d'expérience, je pense à toi, Vincent. Je te fais une belle dédicace. Hein, j'espère que tu l'entendras. J'espère que le fait d'avoir 20 ans d'expérience aujourd'hui me donne un peu plus de place dans ce monde du vin. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à apprendre les uns des autres et qu'on va être tous sur un même stade d'égalité, que ce soit par nos expériences, chacun, qu'on se respecte et qu'on parle plus de féminisme, mais qu'on parle d'humanisme. Voilà.
Merci Florence, écoute,
c'était pas prévu, mais j'avais écrit un petit mot là-dessus parce que franchement ça me marquait.
Écoute, ce micro est ouvert à toi et ces gens qui défendent. Tu as raison de rappeler que avec Fleur Godard, ça n'a pas été que une entente formidable, parce qu'elle est arrivée avec des principes sur le vin nature qui a pas toujours fait l'unanimité autour de la table.
Non, j'ai pas accroché.
Mais ça n'a rien à voir. Mais le débat n'a rien à voir avec celui-là. Il n'est pas une question de. Et c'est pour ça que j'ai rappelé que ces gens-là avaient été nos invités, mais ils n'ont pas été nos invités. Et c'est pas parce qu'on les aime bien ou qu'on les aime pas que... Non, là, le sujet, il est ailleurs, en fait. Il est dans le respect de la personne humaine, et puis ces dessins sont dégueulasses, et puis le fait qu'on les critique, c'est normal, et que ça donne lieu à des torrents d'insultes, c'est juste indigne. Donc on salue ce combat, et merci pour cette prise de parole en bonne Women Do Wine que tu es, toi aussi. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous sur les réseaux, un peu partout. On rappelle les vins qu'on a dégustés. Le domaine Olier-Taillefer, c'était la cuvée Grande Réserve
2015
en Faugère. Le manoir du Capucin,
la cuvée Délice.
Cuvée Délice
de Chloé Bayon sur Mâcon Solutré-Pouilly en 2019.
Voilà, deux très bons vins. Et Laurent, il a envie de dire quelque chose. La cuvée.
Je pensais que tu voudrais parler de la cuvée Terre à Boire. Je pensais que tu voulais faire un peu la pub pour la cuvée Terre à Boire, mais je t'entends.
Écoute, la cuvée La Terre à Boire, on en communique un petit peu sur les réseaux. Il s'agira d'un Beaujolais vinifié par notre camarade Philippe Viette, sans suspense. Il nous a mis un petit peu vin de côté pour pouvoir faire cette belle cuvée. On a appelé à dessiner des étiquettes. On a reçu quelques participations. Je vous invite à continuer, peut-être à faire des créations. Et on ramassera un petit peu les copies fin du mois de janvier pour décider de ce que sera le visuel de cette étiquette, et puis on postera sur les réseaux. Et le feuilleton continue, en tous les cas, mise en bouteille fin mars début avril, donc on a encore un petit peu de temps avant de la goûter. Évidemment, ça donnera lieu à une émission spéciale. Merci à tous, on se retrouve dans une paire de semaines pour parler de voyage. À bientôt.
Merci, au revoir.
Bye bye.
Merci,
bye.
Au revoir.